Avec Yannick. Yannick, le Grand Prix est parti, là.
Oui, le Grand Prix est parti. Lewis Hamilton a conservé sa première place. Stroll a perdu 2 places au départ. Il est présentement 8e de la course. Il y a eu un incident dès le début de l'épreuve entre Alexander Albon et Kevin Magnussen. Kevin Magnussen qui a été contraint à l'abandon et le coéquipier de Lance Stroll, Nico Hülkenberg, a eu des problèmes de moteur au départ, n'a même pas pris le départ de la course. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour...
Ça arrive. Des fois, ça arrive même dans le tour de chauffe.
C'est vrai. Ouais. Alors, pour le moment, donc, Stroll, je vous ai dit qu'il était 8e, il avait perdu 2 places. Là, il est maintenant 6e. Ah, Hamilton, bon. Bottas et Verstappen, 1, 2, 3. Charles Leclerc est 4e.
Ray Lalonde, bonjour.
Bonjour, Paul.
Ray, salut, Paul.
Oui, on avait mis à l'agenda d'aujourd'hui l'avenir du football canadien. Ici, ça veut dire, est-ce que les Alouettes vont jouer un match et où et quand ou pas du tout au cours de l'année 2020?
On serait rendu probablement, Paul, à la 7e semaine du calendrier de la Ligue canadienne. Alors, tu sais que la Ligue canadienne n'a pas autant de flexibilité à cause de la météo et des conditions dans certaines villes au Canada. Tu ne peux pas jouer en décembre. Alors, il faut que tu sois capable de conclure ta saison en novembre. Alors, si tu te rappelles, on recule un peu. Ils avaient fait une demande d'un don, littéralement, jusqu'à 150 millions du gouvernement fédéral. Puis le gouvernement fédéral avait trouvé une façon délicate de refuser. Sans trop aller public avec ça, sans trop les froisser, mais ça n'a pas passé devant le gouvernement canadien, cette demande-là. Mais ils sont revenus avec une offre d'un prêt avec un intérêt très élevé pour aider la Ligue canadienne à se sortir du marasme financier cette année. Bon, ça, c'est pas ce que la CFL voulait ou désirait, pour la simple raison qu'ils n'ont pas les moyens, eux, de prendre un prêt à intérêt élevé puis de remettre ça à court terme. Parce que, de toute façon, cette année, les équipes de la Ligue canadienne n'ont généré aucun revenu, mais ils n'ont payé aucun salaire. Alors, la situation est compliquée pour les joueurs qui gagnent entre 60 et 300-400 000 pour les grandes vedettes, mais 60 000 comme salaire minimum. C'est difficile dans la Ligue canadienne parce que ces gars-là n'ont pas de bassin financier. Ils n'ont pas une structure autour d'eux. Ils n'ont pas des contrats à long terme qui sont garantis. Donc, les joueurs, littéralement, se cherchent d'autres choses. Et je parle de d'autres emplois, pas juste d'autres jobs dans le football.
T'as eu la preuve, Vernon Adams, cette semaine, on a appris qu'il livrait du Uber Eats.
C'est ça, exactement. Les gars n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils gagnent leur vie à faire quelque chose. Le défi qu'on a, là, c'est qu'on manque de temps. On a fait un bon pas dans la bonne direction en choisissant Winnipeg comme ville-bulle, en se disant, ben, on peut mettre toutes les équipes à Winnipeg. Mais je vous rappelle de réfléchir pour une seconde au coût puis à la logistique de mettre les équipes de la Ligue canadienne dans une ville comme à Winnipeg. Parce que ça voudrait dire que tu jouerais des matchs de football à raison de 2-3 matchs par jour dans le même stade. C'est pas très compliqué, la Ligue canadienne, il y a juste 9 équipes. Mais il faut que tu les loges puis que tu les nourrisses. Et c'est la Ligue qui paierait ces frais-là. Ça serait pas les joueurs. Parce qu'une fois que tu les déplaces de leur domicile, ben, il faut que tu assumes la facture. C'est pour ça que c'est si coûteux pour la Ligue nationale de hockey et pour la NBA. Alors, c'est compliqué le modèle de ville-bulle pour la Ligue canadienne, malgré le fait qu'à Winnipeg, il n'y a presque pas de cas. Donc, ça serait un bel endroit pour jouer. Mais avant, ça leur prend une convention collective. Fait que, disons qu'ils ont beaucoup d'obstacles devant eux, puis on commence à manquer de temps.
Et un point de vue très intéressant que j'ai entendu, messieurs, sur nos ondes cette semaine, celui de Bruno Eppel, ancien joueur porteur de ballon des Alouettes de Montréal, qui a dit « Les relations entre l'Association des joueurs de la Ligue canadienne a toujours été mauvaises avec les propriétaires. » Parce que c'est des propriétaires qui ne sont pas très riches. Ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre pour garder les meilleurs joueurs. Et il dit, je me mets à la place d'un joueur américain, une vedette, mettons, comme avec des Alouettes. Est-ce que ça lui tente d'aller vivre à Winnipeg pendant un certain temps pour ne disputer que quelques matchs, donc, évidemment, beaucoup moins d'enveloppe salariale qu'une saison normale? Est-ce que ça lui tente vraiment?
Ben, il y a des joueurs qui ont même souligné. Bruno a raison, là, d'abord, on va se dire les vraies choses. Les propriétaires de la Ligue canadienne sont pas de grands riches. L'équipe la plus riche, c'est les Argos de Toronto parce qu'ils font partie de la famille de Maple Leaf Sports Entertainment, qui est propriétaire des Raptors et des Maple Leafs. Donc, il y a de l'argent de ce côté-là. Mais c'est pas le cas pour les autres équipes. Alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, là où Bruno a raison, c'est que les propriétaires, eux, cherchent des moyens de survivre. cherchent des moyens de juste garder leur équipe. Et des joueurs ont fait des commentaires depuis le début de la pandémie en disant que une saison réduite, couper mon salaire de 75 000 à 40 000, puis là, après ça, j'ai 20 000 en impôts, 50 %. Je vais jouer une saison, prendre des risques pour ma santé, pour la pandémie et pour ma santé physique, blessure normale au football.
Et il y a des joueurs qui ont même, et des joueurs qui ont même pas été payés depuis l'année dernière. Ray
tout à fait. Alors, c'est vraiment compliqué. Ça regarde mal, Paul, pour la Ligue canadienne de football.
Et parlons maintenant de la NFL, c'est-à-dire l'autre football américain. La saison, la pré-saison, le calendrier a été carrément annulé. Est-ce qu'il est logique? Avec ce qui est survenu dans le baseball majeur au cours des derniers jours, des dernières semaines, de penser qu'il y aura une saison normale, même s'il n'y a pas de spectateurs dans les tribunes, où les équipes pourront se promener d'une ville à l'autre.
Bon, alors, d'abord, sur le côté financier de la NFL, parce qu'on vient de terminer ça avec la Ligue canadienne de football, eux ne manquent pas d'argent. Il y a deux semaines, la Ligue nationale de football a remis un chèque de 296 millions de dollars à chaque équipe. Ça, c'était le chèque pour partager les revenus bruts de l'an passé. La Ligue nationale de football, la NFL, c'est une ligue très, très riche qui peut vivre sans spectateurs pendant quelques saisons. C'est même pas un problème. Parce que l'énorme versement financier pour les droits médias et télé des diffuseurs américains compense pour tous les autres revenus. Donc, eux ont leur place sûre et certaine. Par rapport au modèle de bulle, pour la NFL, un modèle de bulle, ça fonctionne pas vraiment non plus. Pour la simple raison que ce sont un match par semaine qu'on joue. Et tu joues pendant 16 ou 17 semaines. Tu as toujours une pause d'une semaine. Ça serait très compliqué de faire une saison régulière complète si longue, de 4 mois, 5 mois, avec les équipes dans une ville ou deux villes. Et de ne jouer une fois par semaine. Parce que là, il faudrait que tu joues beaucoup de matchs soudainement à tous les week-ends. Sur le même terrain.
Ouais. Ou et peut-être même d'autres dans la semaine ajoutés au lundi soir et au jeudi soir.
Exact. Alors, tu vois que là, tout est faisable et tout est possible, mais pour le moment, eux ont confiance en leur modèle, c'est-à-dire un modèle qui ressemble au baseball. Moi, personnellement, pas trop confiance dans ce modèle-là. Ouais.
Mais Ray, c'est beau, là, mais ça va prendre des joueurs sur le terrain. La semaine dernière, Laurent Duvernay-Tardif a été le premier à dire « Moi, je fais l'impasse sur 2020. » Depuis ce temps-là, il y en a plusieurs qui ont suivi LDT. Va falloir mettre une formation qui a de l'allure sur le terrain aussi pour chacune des équipes. Là.
Jusqu'à maintenant, Yannick, il y a 30 joueurs qui se sont désistés pour la prochaine saison. Le chiffre continue d'augmenter lentement, mais quand même, à tous les jours. On est dans le camp d'entraînement depuis à peu près 10 jours. Rappelle-toi, on est le début août, puis ils ont un mois encore, minimum. Minimum un mois d'entraînement avant le début possible d'une saison régulière autour de la fête du travail. Puis je rappelle aux gens qu'il n'y a pas de contact physique avec les joueurs jusqu'au 17 août. C'est-à-dire que les règlements ont changé cette année pour protéger. Fait que là, pas de casque épaulette avant le 17 août. Wow. On est le 2 août. Puis normalement, ça, un camp d'entraînement de la NFL, c'est très exigeant physiquement. Alors, ils ont pris des mesures. Mais pendant ce temps-là, c'est long. Puis pendant ce temps-là, je répète aux gens, les joueurs vivent dans différentes villes sous des conditions évidemment très élevées au niveau sanitaire, mais quand même. Il y a beaucoup de risques. Alors, il y a des joueurs qui se désistent.
Alors, parlons maintenant de l'avenir du soccer. C'est-à-dire, la MLS n'a pas encore couronné son champion. Mais où est-ce qu'on va au-delà de ça? Et quel est l'avenir de l'impact à court terme?
C'est une bonne question, Paul. Le tournoi de la MLS est rendu en demi-finale. Les deux demi-finales vont avoir lieu le 5 et 6 août. La finale, le 11 août. OK, après, on fait quoi? Parce que selon ce que la MLS voulait, c'est de reprendre le calendrier régulier qui mènerait jusqu'en début décembre à la Coupe MLS. Mais le problème là-dedans que je vois, là, c'est qu'il y a trois équipes canadiennes. Les Whitecaps, Toronto FC et l'Impact. Et si le gouvernement canadien a dit non aux Blue Jays de Toronto pour ne pas accueillir d'équipes qui voyagent des États-Unis, il a de la difficulté à imaginer qu'ils accepteraient que les trois équipes de la MLS accueillent des équipes américaines dans le même contexte.
Ouais. Donc, finalement, si on n'est pas capable d'accueillir la Formule 1 en octobre, est-ce qu'on accepterait que des joueurs arrivent d'une ville américaine à Montréal?
Alors, malheureusement, là, il n'y a pas d'autre solution, ils vont devoir l'annoncer bientôt, que de relocaliser les matchs à domicile de ces trois équipes canadiennes-là.
Oui, mais, on a besoin des revenus locaux.
Ouais. Ben non, mais c'est ça la difficulté. Fait que c'est pour ça que le problème, là, il doit s'analyser de plusieurs angles. Parce que c'est pas aussi simple que de dire, ben là, on déménage l'équipe ailleurs, puis on... Ben non, parce que tu n'accueilleras pas de partisans aux États-Unis non plus, bien entendu.
Non.
Et la MLS est une de ces ligues-là qui a besoin d'accueillir des partisans. Tu sais, mettons qu'ils sont plus solides financièrement que la Ligue canadienne de football, bien sûr. tu sais, il y a des franchises qui ont
coûté 250. Oui, mais ils roulent pas sur l'or comme la NFL.
Exact. Non. Exactement. C'est très compliqué, puis ça va être difficile à imaginer. En tout cas, il y aura, à mon avis, c'est juste mon avis, là, c'est pas Don Garber qui parle, il y aura pas un match à domicile au Stade Saputo cette année.
Mais je ne sais pas, Paul, Thérèse et Ray, je ne sais pas si c'est Jérémy Filosa qui nous parlait de ça la semaine dernière en disant, qui évoquait le scénario. Est-ce que ça se pourrait, Ray, que on dise, OK, les équipes canadiennes vont jouer entre elles. Tous les matchs qui restent, là, ce serait Vancouver, Toronto et Montréal.
Ouais, ça se pourrait pour à peu près deux semaines. Puis là, on serait tanné de jouer l'un contre
l'autre. Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vraiment... Yannick, c'est sûr que t'as quasiment pas d'alternative. Ouais. Tu sais, c'est les gens qui me posaient des questions cette semaine. Ray, pourquoi le baseball n'a pas fait de bulle? Puis juste de jouer contre ta division. Ben, c'est parce que dans les divisions, des fois, t'as 4-5 équipes. Tu peux pas répéter toujours les mêmes équipes. Regarde l'animosité qui existe entre les Dodgers et les Astros à cause de la tricherie des Astros il y a quelques années, puis l'an dernier. Alors, ces équipes-là là, ont besoin de variété puis de diversité pour survivre.
En tout cas,
ça marche pas, trois équipes.
La rivalité monterait d'un cran, en tout cas, entre Vancouver et Toronto. Ouais, ça, c'est sûr.
Ouais, mais jusqu'à un certain point.
Oui.
On va terminer avec cette incroyable vidéo. Et mesdames, messieurs, vous devez aller voir ça.
Ah, oui.
Que vous aimiez le sport ou non, c'est l'équipementier, le géant Nike, qui a, et je vais laisser Ray Lalonde nous présenter, diffuse sur son site là un document de toute beauté.
Nike a toujours des messages très percutants, Paul. Tu sais, rappelle-toi, là, toi et moi, on suit le dossier de Colin Kaepernick là, à fond là, depuis 2016. Nike se gêne pas. Nike a beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Certains vont blâmer Nike pour parfois exploiter dans des situations où ils font leur manufacture de produits dans des endroits, dans des pays du tiers-monde, comme la plupart des grands manufacturiers. Mais Nike a quand même dépensé une fortune pour se lever contre les injustices sociales et les inégalités. Là, ils ont créé une pub avec la campagne « You can't stop sport ». Puis là, par-dessus le mot « sport », ils ont écrit le mot « us ». C'est-à-dire, vous pouvez pas nous arrêter.
Vous pouvez pas nous arrêter.
Exactement. Ouais. C'est le mouvement. Là. C'est dans la suite de Black Lives Matter.
Ouais.
Puis on en parle souvent, puis on n'a pas le choix que d'en parler souvent. Puis je vais toujours le répéter, ce même message-là. Il faut qu'on s'éduque, puis il faut qu'on prenne le temps de prendre conscience si on est pour apporter du vrai changement. Sinon, c'est des paroles en l'air. Alors, cette campagne-là, 4000 heures d'action et de piétage vidéo pour rassembler des images qui parlent d'unité de rassemblement, de jeunes athlètes mineurs comme chez les professionnels,
alors,
de
Ray,
tous les sports de la planète.
Je vais te laisser poursuivre, mais on va tremper un peu dans ce document vidéo.
We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder.
Et là, évidemment, nous sommes à la radio. Ray, je vais expliquer rapidement. On a un écran divisé. Et Thérèse, vous l'avez vu,
oui,
la publicité.
Oui.
On a un écran divisé. Ça peut être une jeune gymnaste, toute petite, à gauche, dans l'écran de gauche. Et ça se transfère, son mouvement, dans l'écran de droite. Et là, vous apercevez un mastodonte qui lance le disque aux Jeux olympiques.
C'est mais qui fait le même geste.
Oui, c'est le même geste.
Les corps se confondent.
Se rejoignent.
C'est hallucinant.
Oui, puis c'est la narration, c'est Megan Rapinoe, qui est la star incontestée de l'équipe de soccer féminine des États-Unis, championne du monde, mais aussi une porte-parole puis une activiste quotidienne sur le mouvement et sur le mouvement des femmes dans le sport. Alors, ils ont choisi la bonne personne pour articuler ce message-là. C'est fait avec diligence, avec rigueur. C'est spectaculaire comme publicité. Puis ça va dans la ligne du mouvement sociopolitique que Nike soutient constamment. Alors, faut vraiment le voir, Paul.
Merci beaucoup, Ray Lalonde. Bonne semaine.
Bonne Merci semaine Ray. À tout le monde.
Au retour, Thérèse, encore dans le Bossa Nova et dans la Samba.
Ben parce que Pierre-Yves Lard nous a envoyé une suggestion sur Twitter.